France Inter.
Et 19h, c'est l'heure de votre journal. Frédéric Barrère, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le vote est présenté comme crucial pour l'Ukraine. Aux États-Unis, les parlementaires de la Chambre des représentants se prononcent en ce moment sur une gigantesque enveloppe de 95 milliards de dollars, dont une grande partie doit permettre de financer la guerre en Ukraine. La Chambre des représentants doit aussi voter sur une possible interdiction de TikTok. Nous serons en ligne avec notre correspondant aux États-Unis dans un instant. À Grande-Synthe, dans le Nord, après la mort de Philippe Koopman, un adolescent de 15 ans a été agressé par plusieurs personnes la nuit dernière. Il s'agit du cousin de l'un des deux jeunes mis en examen pour la mort de Philippe Koopman. Un changement qui peut interpeller. Alors que les violences à l'arme blanche se multiplient, le ministère de la Justice invite les forces de l'ordre à sanctionner d'une contravention les détenteurs d'armes blanches. Dans ce journal également, plusieurs opérations reportées à l'hôpital de Metz en raison d'un accident de stérilisation. Un label destination d'excellence pour les hôtels et les lieux d'accueil touristiques. Et en football, demi-finale de la Ligue des champions féminines, Lyon reçoit en ce moment le Paris Saint-Germain. La météo, pas d'amélioration prévue demain, Camille Esnault.
Non, la baisse des températures se confirme et l'instabilité concernera toujours la partie est du pays.
Prévision complète à la fin de ce journal.
France Inter.
Ukraine, Israël, mais aussi TikTok, vote ce soir très attendu du Congrès américain. Les parlementaires de la Chambre des représentants vont se prononcer sur une gigantesque enveloppe de 95 milliards de dollars réclamée depuis des mois par le président Joe Biden. Un grand plan d'aide, notamment pour l'Ukraine et Israël, soutenu par les élus des deux bords. On retrouve en direct notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Frédéric.
Et au cœur de toutes les tensions, le financement de la guerre en Ukraine.
Oui, évidemment, écoutez, la dernière tranche d'aide en faveur de Kiev avait été débloquée fin 2023, mais les caisses désormais sont vides, hein, puisque cela faisait près d'un an et demi que la Chambre n'avait pas voté la moindre enveloppe de soutien pour l'Ukraine. Ce devrait être chose faite, donc dans les heures qui viennent, 61 milliards de dollars réclamés par Joe Biden, mais bloqués depuis des mois à cause de l'opposition, en particulier de la frange trumpiste du Parti républicain. Ces élus ne veulent pas entendre parler d'aide à l'Ukraine, leur patron à la Chambre, Mike Johnson, est finalement passé outre, mais devra compter sur l'appui très rare des démocrates. Seront également votées une aide de 13 milliards pour Israël, une autre de 8 milliards pour Taïwan, ainsi qu'une enveloppe humanitaire.
Et puis Loïc Loury, la Chambre des représentants vote en même temps sur une possible interdiction de l'application TikTok.
Oui, alors c'est un peu hors sujet à première vue, mais cela fait partie en fait de la stratégie de Mike Johnson, qui a décidé de découper son grand plan de 95 milliards en quatre morceaux, dont un paquet de mesures destinées à contenter un petit peu tout le monde. On y trouve le gel des avoirs russes, par exemple, et donc cette interdiction de TikTok. C'est un serpent de mer de la politique depuis déjà des années aux États-Unis. Donald Trump avait tenté de bannir le réseau social, accusé d'être à la solde de Pékin et qui compte 170 millions d'utilisateurs américains. En vertu de ce texte, la plateforme devra couper ses liens avec sa maison mère chinoise sous peine de disparaître. TikTok associé à l'Ukraine, Frédéric, c'est en tout cas une session assez inédite qui a débuté à la Chambre des représentants à Washington.
Loïc Loury, correspondant de France Inter aux États-Unis, merci. Et puis en Ukraine et en Russie, les attaques se sont poursuivies sur le terrain aujourd'hui comme depuis près de 800 jours. L'Ukraine déclare que la Russie a frappé des immeubles résidentiel dans le nord-est, faisant deux morts et deux blessés. Parallèlement, des drones ont été lancés en direction de 8 régions russes. Ils ont touché un dépôt de carburant et 3 sous-stations électriques, selon des sources proches de la défense ukrainienne. En France, à Grande-Synthe, dans le Nord, moins d'une semaine après le lynchage mortel de Philippe Koopman, un homme de 22 ans, une nouvelle agression a eu lieu la nuit dernière. Un adolescent a été agressé par plusieurs personnes qui lui ont dérobé une partie de ses vêtements. La victime transportée à l'hôpital est un cousin de l'un des deux adolescents mis en examen pour la mort de Philippe Koopman, Jean-Philippe Deniaux.
Selon les déclarations de l'adolescent, plusieurs personnes cagoulées l'ont agressé peu après minuit, l'ont frappé au visage et aux côtes et lui ont pris son jogging et ses baskets avant de s'enfuir. Un passant l'a ainsi retrouvé dénudé et l'a emmené chez lui avant de le conduire à l'hôpital où il subit des soins. Le parquet a donc ouvert une enquête pour violence volontaire en réunion et établi une incapacité temporaire totale estimée à plus de 8 jours. Mais les circonstances exactes de ce qui s'est produit restent à déterminer. Il n'est pour l'instant pas possible de conclure de façon fiable sur le mobile, indique prudemment la procureure de Dunkerque. Dans un communiqué, le maire de Grande-Synthe renouvelle son appel au calme et souhaite que le sentiment de vengeance de certains s'estompe le plus vite possible.
Un changement qui peut interpeller alors que les violences à l'arme blanche se multiplient en France. Le ministère de la Justice invite les forces de l'ordre à sanctionner le port et le transport d'une arme blanche, d'une simple contravention. Une expérimentation est en cours dans plusieurs départements. Bonsoir Sarah Mansoura.
Bonsoir.
Alors avoir sur soi une arme de catégorie D, poignard, matraque, coup de poing américain, sera donc sanctionné d'une amende de 500 euros.
Oui, des armes en somme que vous pouvez détenir librement mais pas porter ou transporter sans motif légitime. 500 euros d'amende donc dans le cadre de cette expérimentation menée dans 12 juridictions dont déjà Bobigny, Bordeaux, Lille et Lyon. Paris aussi à partir du 2 mai. Jusqu'à présent, l'infraction de port d'armes de catégorie D, qui est un délit, entraînait un passage au poste et en principe une garde à vue. Là, les agents pourront soit suivre la procédure habituelle, soit infliger cette amende en cas de remise volontaire de l'arme qui sera ensuite détruite. Mais l'amende ne sera pas possible si le fautif est mineur, en récidive ou en groupe. Cette expérimentation, en fait, est conforme à une loi promulguée en 2023, la loi LOPMI, qui étend à de nouveaux délits le périmètre de l'amende forfaitaire délictuelle, l'ALD, qui existe depuis 2016. Cette ALD, d'abord réservée aux contraventions, a progressivement été élargie aux délits routiers, mais aussi à des infractions comme l'usage de stupéfiants, la vente à la sauvette ou le vol à l'étalage. Elle vaut, comme pour tout délit, condamnation et inscription au casier judiciaire.
Sarah Mansoura, merci. La 13, l'autoroute de Normandie reste fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson dans les Hauts-de-Seine, au moins jusqu'à lundi inclus. Des fissures sur la chaussée ont été détectées entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud. Et à la veille des rentrées de vacances des Parisiens, il est urgent de trouver une solution pour éviter une congestion, selon le député des Yvelines, Carl Olive. Il réclame notamment la gratuité de l'autoroute A14. L'activité de l'hôpital de Metz en Moselle perturbée pendant plusieurs jours, plusieurs opérations non urgentes ont dû être reportées en raison d'un accident de stérilisation du matériel. Selon les urgences du CHR Metz-Thionville, seules les urgences du CHR peuvent être assurées. Les autres opérations ont donc été reportées en début de semaine prochaine à la Gastal.
C'est un simple contrôle visuel qui a permis de détecter le défaut dans les sels d'adoucissement qui sont dissous dans l'eau avant le processus de stérilisation. Un processus qui a aussitôt été interrompu. Le docteur Grégory Rondelot est le chef du pôle médico-technique de l'hôpital. Il répond à Emma Stevens de France Bleu Lorraine Nord.
Dès qu'on s'en est rendu compte, on a interrompu le processus de stérilisation. On a travaillé avec les acteurs du bloc opératoire pour reprendre tout le matériel et dans le cadre de notre plan d'urgence d'avoir une continuité de traitement du matériel.
Donc ça veut dire qu'à votre connaissance, personne n'aurait été opéré avec du matériel non stérilisé, quoi.
À ma connaissance, non, mais comme je vous l'ai dit, entre guillemets, on parle de dispositifs sur de l'eau adoucie. Donc on est très en amont de la stérilisation où on a déjà des retraitements par la suite.
Depuis vendredi soir, seules des opérations urgentes sont donc assurées au CHR de Metz. Dominique Peljac en est le directeur général.
Toute activité d'urgence continue à être prise en charge, d'une part parce qu'il nous restait quand même des matériels stériles, et d'autre part et surtout puisque nous avons une coopération avec une clinique, en l'occurrence, qui permet de faire en sorte que lorsque une des deux stérilisations est en difficulté, elle peut aller stériliser ses matériels dans la structure voisine.
Le CHR de Metz-Thionville a donc d'ores et déjà déprogrammé les opérations non urgentes prévues lundi et mardi. Il a prévu de reprendre une activité normale mercredi.
Alain Gastal. Après l'île de la Réunion, Marine Le Pen est arrivée ce matin à Mayotte en pleine opération Place Nette, visant à interpeller des chefs de gang et à expulser des sans-papiers pour la plupart comoriens. À Mayotte, le discours de Marine Le Pen est bien accueilli. C'est le département où elle recueille ses meilleurs scores au niveau national. La députée du Rassemblement National est venue dire tout le mal qu'elle pensait de la nouvelle opération du gouvernement et rappeler ses propositions.
Nous proposons de tordre le bras aux Comores, de leur expliquer que maintenant, on va siffler la fin de la récréation que c'est terminé. Ils vont reprendre leurs ressortissants et s'ils ne les reprennent pas et s'ils n'arrêtent pas d'inciter en réalité à l'immigration clandestine, eh bien, nous prendrons des mesures de rétorsion extrêmement fermes, d'abord budgétaires, peut-être même le gel des avoirs des dirigeants des Comores, la suppression de l'intégralité des visas, et puis il faut mettre en place les vraies conditions de protection de l'île. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ce ne sont pas deux vedettes qui vont être en capacité de gérer les arrivées massives de clandestins.
Marine Le Pen avec Audrey Tison. Une nouvelle distinction pour les hôtels et les lieux d'accueil touristiques et les entreprises du tourisme vont pouvoir obtenir un label destination d'excellence, un label défini par un arrêté publié au Journal officiel aujourd'hui. Les précisions de Fabien Cazot.
Destiné aux hôtels mais aussi aux restaurants, aux campings, aux lieux de visite et aux entreprises de transport touristique, ce label vise en premier lieu à distinguer les acteurs qui savent faire preuve d'un sens de l'accueil de haut niveau. Jugés sur la qualité de leurs prestations, les professionnels du tourisme ainsi reconnus le seront pour le confort qu'ils offrent à leurs clients, mais aussi sur ce que le décret appelle le savoir-être des personnels en contact avec le public, maîtrise des langues étrangères notamment et qualité des informations délivrées aux touristes. Plus nouveau, ce label destination d'excellence fait également la part belle aux critères environnementaux. Il est également censé évaluer le niveau d'exigence des mesures prises en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion d'un tourisme éco-responsable. Il sera en vigueur à partir du 1er mai et sera décerné aux professionnels de l'accueil touristique pour une durée de 5 ans renouvelable.
On l'a tous ressenti en une semaine, les températures ont fortement chuté en France. Un coup de froid qui va s'accentuer avec un pic lundi et mardi prochain. Ce froid inquiète les viticulteurs en raison de la brûlure du gel sur les vignes. C'est déjà le cas dans le Var, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Température relevée, moins 3 degrés. Et Yannick Burle, vigneron au domaine des Masques, avec Juliette Piron de France Bleu Provence.
C'est toujours difficile. J'ai tourné dans mes vignes entre 6h30 et 8h du matin. J'ai constaté certains dégâts. Quand je suis revenu à midi et demi, j'en ai vu beaucoup plus. Certaines parcelles sont quasi indemnes. D'autres sont touchées à 100%. C'est des épisodes qui sont vraiment de plus en plus récurrents. Il y a quand même des endroits où on n'avait pas connu le gel depuis très très longtemps et qui ont gelé 3 fois sur les 6 dernières années. Alors qu'en parallèle, on essaie de mettre en œuvre des choses pour ne pas subir ça. Et c'est principalement des méthodes de taille différentes et des périodes de taille différentes pour essayer de retarder la sortie de la végétation, ben on s'aperçoit que ça ne suffit pas.
Yannick Burle, vigneron au domaine des Masques, avec Juliette Piron de France Bleu Provence. Une princesse héritière obligée de fuir son pays parce que sa sécurité est menacée. C'est ce qui est arrivé à la princesse Amalia des Pays-Bas qui a dû aller vivre et étudier à Madrid pendant plus d'un an. Un exil forcé révélé cette semaine par la presse néerlandaise et qui montre toute la puissance du crime organisé aux Pays-Bas et notamment la Mocromafia, l'organisation mafieuse marocaine spécialisée dans la cocaïne et la drogue de synthèse, dans un pays devenu une plaque tournante du trafic de drogue. Les précisions à Bruxelles de Jean-Jacques Herry.
Cet exil espagnol est la conséquence de menaces persistantes qui visent la princesse depuis maintenant plus d'un an et demi. En octobre 2022, Amalia, alors âgée de 18 ans, avait ainsi dû abandonner sa chambre dans une résidence étudiante d'Amsterdam, quelques semaines seulement après ses débuts à l'université. Pourquoi ? Parce que son nom, comme celui du premier ministre néerlandais Mark Rutte, était apparu dans des échanges entre membres du crime organisé. On craignait alors un attentat ou un enlèvement. C'est sans doute à cette période que son exil secret vers l'Espagne a été décidé pour lui permettre de mener pendant plus d'un an ses études dans de meilleures conditions que dans son pays natal. À nouveau, ces révélations viennent montrer la puissance des réseaux mafieux néerlandais et l'impunité avec laquelle ils semblent pouvoir agir, y compris dans le pays voisin, en Belgique, où le port d'Anvers est devenu la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Ainsi, en septembre 2022, le ministre de la Justice belge, Vincent Van Quickenborn, y avait lui aussi été menacé d'enlèvement. Lui et sa famille avaient dû être emmenés en urgence dans une maison sécurisée. Bruxelles, Jean-Jacques Herry, France Inter.
En football, un choc à ne pas rater avec la demi-finale de la Ligue des Champions féminines. L'Olympique Lyonnais reçoit en ce moment le Paris Saint-Germain. C'est la 7e fois que les deux clubs se confrontent en Ligue des Champions. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
En direct du Groupama Stadium de Lyon, affluence record pour la rencontre et après 10 minutes de jeu, toujours 0-0.
Oui, effectivement, affluence record annoncée, hein, 35 000 personnes annoncées avant ce match, des gradins clairsemés, mais un Groupama Stadium bien rempli, effectivement. Le précédent record était à 30 000 personnes pour les Lyonnaises. C'était déjà contre le Paris Saint-Germain en 2019. Cette fois, c'est la demi-finale. Allez, hein, il y aura un retour au Parc des Princes et on aura forcément une équipe française en finale de Ligue des Champions. Les Lyonnaises sont quand même un ton au-dessus avec 8 victoires en Ligue des Champions, même si le Paris Saint-Germain vit une époque un peu folle avec les garçons et les filles en demi-finale de Ligue des Champions. Cette année, c'est peut-être la bonne. En tout cas, pour l'instant, effectivement, après un peu plus de 14 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Léger avantage dans le jeu quand même aux Lyonnaises avec les deux premières occasions nettes dans les premières minutes pour Delphine Cascarino, l'international tricolore, et l'international américaine Lindsay Horan pour les Lyonnaises. Mais les Parisiennes s'en sont sorties, notamment grâce à leur gardienne, l'internationale française, Constance Picot, 0-0, donc après 15 minutes de jeu ici sous un beau soleil lyonnais, même s'il fait assez frisqué.
Xavier Monferrand en direct du Groupama Stadium de Lyon, merci. Et puis en Ligue 1, 30e journée, un résultat cet après-midi, Rennes est allé battre Nantes, 3-0. Le temps pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Camille Esnault.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Des températures bien en dessous des normales attendues demain.
Oui, avec moins 2 à Rodez pour la minimale, 0 à Aurillac, 2 à Orléans, 3 à Metz, 5 à Paris, 9 à Marseille et 12 à Bastia pour commencer la journée. De petites gelées sont prévues sur le centre et le nord-est du pays. L'après-midi, vous aurez 8 à 14 degrés sur une large moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera 15 à 19 au sud et localement 20 à 21 près de la Méditerranée.
Et la neige au rendez-vous de ce dimanche.
Et oui, demain matin sur les Vosges et le Jura, quelques flocons tomberont sur le plateau lorrain. La neige est également attendue dès 800 mètres sur les Alpes frontalières. Et on retrouve des averses sur l'est qui toucheront en matinée également la Normandie, les frontières du Nord jusqu'au centre Val-de-Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Elles seront plus fréquentes l'après-midi des frontières allemandes aux Alpes du Nord. Des ondées orageuses éclateront de nouveau sur la Corse et l'Est PACA en fin de journée. Sur une grande partie sud, le soleil brillera avec Mistral et Tramontane qui souffleront encore de 70 à 90 km/h en rafale.
La météo de Camille Esnault, merci.